Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc Matei, l'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est des rencontres en France, à l'étranger. Regarde ailleurs, c'est élargir son regard sur le monde à travers les différentes cultures, les différents peuples, les différentes traditions, les différentes croyances, les différents modes de vie. Donc Matei, l'idée c'est qu'on prenne un temps pour te rencontrer. Je te rencontre ici sur le Festival des Chamans. Tu es traducteur pour le peuple Puyanawa, pour le peuple Puyanawa qui est ici sur ce festival. Donc l'idée c'est de prendre le temps déjà de te rencontrer toi et de savoir quel est ton lien avec les peuples de la forêt amazonienne. Donc Matei, tu me disais juste en off que tu es d'origine slovène mais que tu vis en Suisse, donc déjà l'interculturalité coule en toi, hein. Tu es né dans un endroit, tu en vis dans un autre. Donc parle-nous un peu de ton parcours de voyageur, d'expatrié et de ce qui t'a amené pour la première fois à aller en Amazonie.
Alors je m'appelle Matei et j'habite à Genève en Suisse. J'ai un papa d'origine slovène, de la Slovénie, d'où mon prénom Matei qui est Mathieu. Et puis ma maman vient du Canada, anglophone, de la ville de Vancouver. Et mes parents se sont rencontrés à Genève dans les années 60. Moi, je suis né à Genève, mais ayant grandi avec ma mère anglophone, eh bien, ma langue maternelle est l'anglais. Donc ça, c'est très pratique d'avoir l'anglais dès la naissance. J'ai ensuite appris le français à l'école. Et je suis parti aux États-Unis étudier à l'université dans les années 90. Et c'est là que j'ai appris le portugais. Un peu par hasard, mais bon, on dit qu'il n'y a pas de hasard, je suis tombé dans une classe de portugais brésilien. Et j'ai appris cette langue pendant une année et demie. J'ai pu ensuite partir au Brésil en 93.
Pour apprendre la langue ou dans quelle idée? C'était quoi l'objet de ce voyage?
Alors, l'objectif, c'était de faire de la recherche sur le terrain pour ma thèse de licence universitaire. Et donc, je suis allé sur place pour interviewer des personnes et puis récolter des informations pour pouvoir écrire ma thèse.
Mais c'était quoi alors le sujet de cette thèse?
Alors à l'époque, je ne connaissais pas encore l'Amazonie, enfin pas comme je la connais maintenant, et je suis allé dans le nord-est du Brésil, qui est une région assez pauvre en fait, et je voulais comprendre quelles étaient les causes de cette pauvreté. J'ai étudié les relations internationales, et c'était une occasion évidemment de voyager, de découvrir le Brésil, et puis de comprendre donc pourquoi il y a tant de pauvreté dans le nord-est du Brésil, une région qui est très sèche, très aride, qui s'appelle le Sertão. Et là, le problème, c'est qu'il y a une structure de la distribution de la terre qui est encore du style féodal. Donc c'est le système colonial, en fait, qui n'a pas changé depuis que les Portugais sont arrivés au Brésil, où il y a les grands propriétaires terriens, et puis ils ont des quasi, des serfs qui travaillent pour eux et qui n'ont pas accès à la terre. Ils sont maintenus dans la pauvreté et l'ignorance pour pouvoir être plus facilement exploitables.
Et ces propriétaires terriens font quoi? Font donc de l'exploitation agricole, cultivent les sols?
Oui, donc ils ont de grandes productions de soja, de riz aussi, et puis ils ont aussi des bœufs, hein, la viande de bœuf brésilienne est exportée beaucoup. Donc ils travaillent leurs terres, mais ils gardent les profits pour eux. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces travailleurs de la terre qui restent pauvres parce qu'ils n'ont pas leur terre à eux.
Quand on pense Brésil, on pense Amazonie, on pense aussi forêt amazonienne et destruction de la forêt. Donc quand tu parles de ces grands propriétaires terriens, ça fait partie d'anciennement de la forêt qui a été détruite pour des monocultures de soja et l'élevage de bœuf.
Alors effectivement, on pense en premier à la forêt amazonienne, mais il faut se rappeler qu'il y avait de la forêt partout au Brésil. Il y avait une forêt très importante le long des côtes qui s'appelle la Mata Atlântica, la forêt atlantique. Et elle a été énormément détruite, en fait, avant la destruction de la forêt amazonienne, parce que les colons portugais sont arrivés là en premier sur les côtes. Et il y a encore des peuples indigènes qui vivent dans ces lieux, et c'est très difficile pour eux. Il y a les Patachos, par exemple, qui vivent dans la région de Salvador de Bahia, donc proche de la côte. Eh bien, eux, ce sont parmi les premiers à avoir perdu leur forêt.
Et quand on parle des Puyanawa, est-ce qu'on sait combien ils sont ?
Les Puyanawa sont environ 800. Seulement 800 personnes. Donc c'est un petit peuple, oui. Ils ont été victimes de l'esclavage au 19e siècle et ils ont été pratiquement tous éradiqués. Il n'y en avait que environ 1000, ils nous expliquent, avant l'arrivée des colons, mais ils ont été décimés, il n'en restait plus qu'une vingtaine.
C'est incroyable. Qu'est-ce qui identifie les Puyanawa ? C'est la langue, c'est les traditions, c'est la culture. Ça me paraît incroyable de savoir qu'il y a sur cette terre un peuple de seulement 800 individus qui survivent. C'est presque de la survie quand on est aussi peu nombreux.
Alors c'est une lutte de tous les jours, mais ils ont réussi à de nouveau faire croître leur population, surtout au cours du XXe siècle, et à retrouver leur culture, parce que leur culture a été quasiment éradiquée. C'était la volonté des colons qui ont sciemment séparé les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes ne pouvaient plus être ensemble. Les femmes ont été forcées à se marier avec des colons blancs et ils avaient l'interdiction de parler leur langue.
L'histoire se répète dans tous les pays du monde. Il y a cette sorte d'ethnocide, de génocide culturel où souvent, au nom de la religion, au nom d'un dogme, on va empêcher les gens de pratiquer leur religion, leur croyance.
Oui, et puis aussi au nom du contrôle et de l'accès aux ressources. Et donc ils ont été exploités, les Puyanawa, pour faire la récolte du caoutchouc, par exemple. Le caoutchouc vient originellement d'Amazonie. Et puis ensuite, heureusement, ils ont pu se libérer de cela et retrouver leur culture petit à petit, surtout depuis les années 1980. Ils ont été aidés par certains autres leaders d'autres peuples qui n'ont pas été autant opprimés, dont par exemple les Ashaninka. Et grâce à leur médecine traditionnelle, ancestrale, sacrée de la forêt, qui les aide à se connecter à leurs ancêtres, aux esprits de leurs ancêtres, ils ont pu récupérer leur langue, leur chant, leur artisanat, leur peinture corporelle, heureusement. Et aujourd'hui, ils ont une culture très vibrante, très riche, mais ils souhaitent encore la renforcer. Et pour leur langue, c'est vraiment très réjouissant parce que leur langue est enseignée dans leur école, l'école du village, et les enfants apprennent le portugais et le Puyanawa.
Tu parles, on va rentrer dans un autre sujet, les plantes médecines. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'une plante médecine ? Parce que là, on touche à quelque chose de culturellement très différent de nos codes à nous. Quand on parle de plantes médecines, on parle aussi d'invisible, d'un monde un peu éthérique, un monde un peu magique. Donc j'aimerais bien que tu m'emmènes ou que tu nous emmènes dans cet univers-là des Puyanawa et de l'usage des plantes médecines.
Avec plaisir. Cela fait des siècles, voire peut-être des millénaires, que certains peuples d'Amazonie ont découvert certaines plantes qui ont des vertus de toutes sortes. Et pour eux, la forêt, c'est leur pharmacie. Ils n'avaient pas d'autre moyen pour se soigner de toutes sortes de maladies que de recourir aux plantes. Ils ont aussi découvert que certaines plantes ont des vertus spirituelles, on peut dire, qui induisent un état de conscience modifié. Et dans cet état de conscience modifié, ils peuvent se connecter à la nature de manière différente, plus subtile, en utilisant des canaux de perception qu'on appelle extrasensoriels. On connaît chez nous plus, par exemple, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Eh bien, ce sont ces moyens de perception-là qui sont amplifiés grâce à la médecine qu'on appelle ayahuasca. Eux, ils l'appellent dispanheu. Et donc, ça fait partie de leur culture depuis si longtemps qu'ils s'en servent lors de leurs rituels, de leurs cérémonies. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à certains de ces rituels, de ces cérémonies chez eux, dans leur maloca sagrada, ça veut dire leur grande hutte sacrée. Et là, c'est une expérience extraordinaire parce qu'ils boivent leur potion magique et puis après, ils font un moment de méditation en silence. Et puis, quand le moment est venu, après 20 minutes, une demi-heure, eh bien, ils se mettent à chanter. Et là, c'est les femmes qui commencent à chanter. Donc, c'est a cappella. Et puis, c'est un moment vraiment extraordinaire parce que le chant fait partie de leur culture depuis aussi des millénaires. Et elles savent accorder leur voix, faire différentes vibrations, différentes fréquences qui remplissent toute la hutte. Et là, après, il y a les hommes qui se mettent à chanter avec elles. Et d'avoir les fréquences aiguës, les fréquences plus graves dans leur langue. Oh là là. En plus, on est avec l'effet de la plante, Donc on est beaucoup plus sensible au son et il fait sombre. Donc on n'est pas distrait au niveau visuel. On a vraiment le sens auditif qui est très présent, très aiguisé. La première partie, donc a cappella, c'est pour les chants sacrés uniquement dans leur langue, Puyanawa. Ce sont des appels, ce sont des prières, ce sont des connexions à leurs ancêtres, aux esprits de la forêt, que l'on sent présent.
Bien, parce que tu fais la comparaison, la métaphore par rapport à la clairvoyance, la clairaudience, en prenant l'ayahuasca, hein, donc cette plante médecine. Alors j'aime bien aussi rappeler effectivement les plantes, elles nous nourrissent, hein, à manger une salade, des tomates, du maïs, des haricots, elles nous soignent dans nos pharmacopées, à nous aussi, hein, souvent ce sont des molécules extraites des plantes. Quand on va prendre un médicament, bien souvent la molécule vient de quelque part du monde animal ou du monde végétal ou du monde minéral. Les plantes peuvent aussi quelque part nous empoisonner, hein. Il y a des plantes qui sont venimeuses et il y aurait des plantes qui seraient vraiment là pour pouvoir élever les champs de perception, les champs de conscience et nous permettre d'accéder à d'autres réalités. Et donc c'est le cas dans certains peuples, on parle de l'iboga au Gabon, on parle de l'ayahuasca en Amérique du Sud. Chez nous on a les psilocybe semilenceta, c'était aussi des champignons, les champignons magiques. Enfin, on se rend compte que dans toutes les traditions, il y a toujours eu ces plantes qui ont existé. Mais peut-être qu'à un moment ou un autre dans l'histoire, certaines de ces plantes ont été diabolisées. Mais en tout cas, voilà, ces peuples-là continuent à faire perdurer ces traditions-là. Et la question que je me pose par rapport à l'ayahuasca, c'est cette connexion au subtil, à l'invisible, au monde des esprits. Est-ce que l'ayahuasca est une porte qui permet d'accéder à ça? Ou est-ce que ça va modifier nos perceptions et on va se créer une réalité, mais modifiée par notre esprit?
Je comprends où tu veux en venir. Pour moi, donc j'ai eu des expériences évidemment de perception extrasensorielle et ça n'était pas mon imagination. C'était pas ce qu'on appelle une hallucination. C'était une perception de quelque chose que l'on ne perçoit pas d'habitude. Et j'ai vu par exemple le corps subtil, le corps énergétique, on appelle parfois, d'une rose, d'une fleur qui bougeait, qui avait l'air de danser parce qu'il y avait de la musique douce et elle dansait, mais c'était pas son corps physique qui dansait, c'était son corps énergétique. Et donc je me suis frotté les yeux, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, et j'ai regardé autour pour voir si ça faisait la même chose aux alentours, et non, ça bougeait pas, et il y avait rien d'organique, de vivant aux alentours, mais quand je regardais ces fleurs, eh bien elles dansaient comme ça au rythme de la musique. C'était extraordinaire. Donc pour moi, bon, j'ai eu d'autres expériences, mais pour moi, justement, ce n'est pas des hallucinations, c'est vraiment percevoir une autre dimension.
Et là, c'est compliqué d'en parler parce qu'on parle de quelque chose de très sensoriel. C'est de l'ordre de l'expérience. Donc on peut mettre des mots, mais là, c'est vraiment plutôt un ressenti. J'ai l'impression, quand tu en parles, plus que quelque chose qu'on explique, c'est quelque chose qu'on vit de l'intérieur.
Oui, c'est vraiment de l'ordre du ressenti, tu as raison. Et une des qualités de ces médecines de la forêt, c'est qu'elles permettent de calmer le mental. Donc nous, en Occident, on a le mental qui tourne très fort, on est beaucoup dans notre tête, on a des pensées constamment. Eh bien, en cérémonie, comme ça, le mental se calme. On est moins dans sa tête, on est plus dans le ressenti. Et ça, c'est vraiment une des vertus. Chez nous, on fait de la méditation aussi, hein. Ça, c'est aussi un moyen très puissant de revenir, en fait, à la présence. Eux, dans la forêt, ils sont plus dans l'action, dans le chant, dans le mouvement, mais la médecine leur permet de revenir plus aux sensations.
Alors c'est vrai que le mental, on en parle beaucoup dans toutes les traditions, dans le bouddhisme aussi, effectivement tu parlais de la méditation, du zen, cette notion de redescendre un petit peu dans le cœur, arrêter son mental qui des fois nous joue des tours, et essayer d'être plus dans les perceptions, dans le ressenti. C'est peut-être un peu l'enjeu finalement de trouver toujours cet équilibre entre ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Tu parles de plante médecine, alors c'est intéressant ce mot médecine, j'aimerais bien comprendre. Quand j'entends médecine, j'entends soigner, guérir. Alors, est-ce que les plantes médecine guérissent? Enfin, quel est leur usage? J'entends hein, qu'une plante, effectivement, a différents pouvoirs, hein, en fonction de sa quantité, de la manière dont on va l'ingérer, la manière dont on va la préparer. Mais voilà, est-ce que là, on la prend pour guérir quelque chose? Un rhume, un mal de ventre, un mal de tête? Ou vraiment pour accéder à autre chose?
Alors, pour ces peuples indigènes, en tout cas pour les Puyanawa, les plantes peuvent servir à guérir toutes sortes de maux. Ça peut être des maux physiques et ça peut être des maux psychologiques, voire spirituels. Donc quand on parle de l'ayahuasca, eh bien ils appellent ça une médecine parce que ça permet de guérir l'âme ou l'esprit ou la psyché, on dirait. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'aller toucher l'inconscient ou le subconscient. Elle va agir au niveau des fréquences cérébrales pour les faire descendre, se calmer, comme en méditation. Et là, ça crée une porte, une ouverture pour l'ouverture justement du subconscient. Et là, il peut y avoir guérison de trauma, guérison d'émotions refoulées. C'est pour ça que c'est une médecine. Elle est capable d'aider énormément à aller recontacter des mémoires douloureuses qu'on a cachées dans notre subconscient pour les faire émerger de nouveau à la conscience et pouvoir les guérir. C'est pour ça qu'ils appellent ça une plante médecine.
Alors, est-ce que tout le monde consomme ces plantes médecines ? Est-ce que tout le monde, ou est-ce que c'est, ça me fait penser à Astérix et Obélix, où tu as le druide qui vient avec la potion magique, et tout le monde n'y a pas forcément accès. Alors, est-ce que c'est pareil ? Est-ce qu'il y a aussi un druide qui est là pour distribuer la potion ? Ou est-ce que tout le monde peut aller cueillir les plantes dans la forêt et se faire une tisane chez soi à la maison ?
Alors, pour la préparation de ce breuvage, il y a seulement certaines personnes du peuple qui sont accréditées ou bien qui ont l'autorisation. Parce que ça demande énormément de concentration et d'avoir un équilibre psychologique et l'intention, la bonne intention, quand on prépare la médecine. Donc c'est uniquement le cacique. Le cacique, c'est le chef politique et spirituel du peuple qui mène cette production de l'ayahuasca. Pas tout le monde dans le peuple ne consomme cette boisson. Environ 20% des Puyanawa participent activement aux cérémonies.
Et les autres, qu'est-ce qui va déterminer qu'on consomme la plante ou qu'on ne la consomme pas ?
Alors c'est un choix personnel. Avec la colonisation est arrivé le catholicisme. Donc dans le village, il y a, si je me rappelle bien, 3 églises chrétiennes différentes. Il y a les évangélistes et puis 2 autres, je ne me rappelle plus. Mais donc la majorité du peuple, en fait, a été christianisé durant la colonisation. Et donc, c'est assez drôle parce que il y a l'église du village et puis, non loin de là, il y a la hutte sacrée où ils pratiquent leur spiritualité ancestrale. Donc, ils arrivent à quand même faire vivre ça en parallèle, ce qui est assez admirable. Mais petit à petit, de plus en plus, des Puyanawa retrouvent l'envie et la curiosité de reconnecter avec leurs racines.
Et leurs traditions, alors j'ai une question que je me pose aussi, c'est souvent, si on prend les jeunes générations, se détournent souvent des savoirs des anciens. Il y a un côté uncool. Et qu'en est-il de la jeunesse Puyanawa ? Est-ce qu'il y a cette envie de continuer à perpétuer les rites des anciens ? Ou est-ce qu'il y a cette envie de se tourner vers l'Occident et vers la modernité et vers la société de consommation ? Est-ce que nous, on a tendance à vouloir fuir aujourd'hui ?
Alors là, ça dépend beaucoup aujourd'hui de ce qu'ils appellent, eux, les leaders du peuple. Donc, le cacique, il est entouré de 2 autres personnes. Et chez les Puyanawa, heureusement, ils sont bien conscients des dangers de la technologie moderne. Parce qu'évidemment, arrivent chez eux les téléphones portables. Maintenant, ils ont Internet avec les satellites. Et donc, il est de la responsabilité des leaders de veiller à ce que cette technologie n'envahisse pas, leur quotidien. Et malheureusement, chez certains peuples, eh bien, il y a déjà un dérangement.
Une addiction, comme chez nous, finalement. Nous aussi, nos leaders devraient vérifier qu'Internet n'envahisse pas nos esprits. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Des vraies addictions, des dépendances qui sont en train de se créer dans tous les coins du monde, finalement.
Absolument. Et ce que l'on voit chez certains peuples, c'est que les jeunes deviennent justement dépendants de ce téléphone, des réseaux sociaux, et se détournent des traditions Par exemple, celle de se retrouver au coucher du soleil, autour du feu, et puis les anciens transmettent les connaissances, la sagesse aux plus jeunes. Et donc, pour que cela perdure, eh bien, c'est difficile, parce qu'on sait combien c'est attrayant d'aller sur ces réseaux sociaux et puis de passer des heures sur Internet. Moi, j'en suis aussi une victime. Donc, comment faire pour empêcher que cette technologie moderne ne vienne trop perturber leur tradition? C'est une vraie question.
C'est une vraie question.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Je reviens à l'ayahuasca. Donc là, on parle des Punayawa. Mais notre peuple sont plus ou moins connus ici en Europe pour venir partager leurs connaissances, partager la médecine. Les Yawanawa, les Shipibo, les Uniquines aussi. Et j'ai l'impression que tous ces peuples partagent la plante, l'ayahuasca. C'est quelque chose qui recoupe toute une partie de ces populations amazoniennes.
Oui, c'est vrai que c'est une médecine qui est très répandue dans le bassin amazonien, hein. Chez les Shipibo au Pérou, dans l'état de Acre où sont les Puyanawa. Il y a aussi la Colombie, l'Équateur. Donc c'est une question intéressante de se dire, mais comment est-ce qu'ils ont découvert cette médecine? Parce que dans la forêt, il y a des milliers, dizaines de milliers de plantes différentes.
Et là, on parle d'association de deux plantes en plus.
Exactement. C'est l'association des feuilles d'un arbuste qui s'appelle la chacruna en espagnol, et puis d'une liane qu'on appelle soit ayahuasca, soit chez les Puyanawa, c'est sipo. Et donc, ils cuisinent ces deux plantes ensemble pendant des heures et des heures. C'est énormément de travail aussi pour aller les cueillir, les récolter. Souvent, on ne se rend pas compte en fait de combien il y a de travail derrière la production de cette boisson. Et comment est-ce qu'ils ont découvert que c'était l'association de ces deux? Donc moi, j'ai souvent posé la question à des amis indigènes. Et une réponse, c'est que vu qu'ils sont en connexion spirituelle avec les plantes sont les dépositaires de beaucoup de connaissances ancestrales dans leur ADN. Les plantes sont sur Terre depuis bien plus longtemps que nous. Et pour eux, elles sont conscientes. Elles ont une intelligence qui n'est pas la même que la nôtre, mais avec laquelle on peut communiquer. Et donc, on aurait communiqué, elles auraient communiqué à certains chamans de la forêt quelle plante il faut utiliser pour guérir telle maladie. Et c'était pareil pour l'ayahuasca. Ils ont reçu l'information qu'il fallait prendre cette plante-là avec cette liane-là pour obtenir l'ayahuasca.
Parce que si on prend, donc l'ayahuasca, c'est donc une combinaison de deux plantes, hein, une liane et deux feuilles, mais si on n'ingère que l'une des deux, on n'a pas les effets psychotropes.
C'est ça la magie de cette combinaison. C'est que dans la chacruna, donc la feuille, il y a la molécule de la diméthyltryptamine, la DMT, qui est la molécule psychoactive. Mais si on ingère uniquement celle-là, le système digestif va digérer et casser la molécule avant qu'elle ne arrive dans les intestins où elle serait absorbée. Alors que la liane, elle contient un enzyme qui va neutraliser ce qu'on a dans l'estomac qui détruirait cette DMT. Donc d'abord, donc ensemble en fait, eh bien, la liane permet à la DMT de passer l'estomac et d'ensuite être absorbée par les intestins.
Donc ce qui est assez fascinant, c'est d'imaginer que finalement les recettes viennent des plantes elles-mêmes. Ce seraient les plantes qui auraient transmis à l'homme, bah tiens, mange-nous de cette manière-là, avec ces quantités-là, et ça permettra d'avoir telle et telle action sur ton corps ou sur ton esprit.
Oui, c'est ça. Et c'est ça aussi vraiment un des aspects tellement fascinants et précieux que l'on trouve chez les peuples indigènes d'Amazonie. C'est cette connexion qu'ils ont avec la nature et ces connaissances qu'ils ont du monde naturel et des plantes et aussi des animaux, ce qui remonte à des milliers d'années. Donc c'est aussi un intérêt évidemment pour les entreprises pharmaceutiques de chez nous qui sont bien au courant que presque toutes les molécules qu'eux utilisent proviennent des plantes. Alors il y a aussi pour les peuples d'Amazonie un danger d'être victime du biopiratage, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui viennent sous couvert récolter des informations qu'on leur dise quelle plante soigne quoi. Ensuite, ils vont ramener ces plantes au laboratoire, en extraire la molécule active, et puis vendre ça et faire du profit. Donc c'est aussi un défi pour les peuples indigènes de cesser de se faire en fait voler leurs connaissances.
Mais une autre problématique aussi que je peux imaginer, c'est tout ce qui est appropriation culturelle. Parce que là, on parle d'une plante qui pousse en Amazonie, qui a communiqué avec un peuple. Et aujourd'hui, on le retrouve partout sur la surface de la Terre. Il y a une sorte d'engouement croissant pour prendre de l'ayahuasca ici en Europe. Donc quelle est la perception des peuples, des Puyanawa par exemple, sur l'envie des Occidentaux de consommer la plante, alors que finalement, culturellement, c'est très éloigné de leur biotope et de leur origine?
Oui, absolument. Cela fait depuis les années 80 que certains peuples d'Amazonie ont reçu l'information qu'il était temps d'ouvrir la médecine à l'Occident. Avant cela, ils la gardaient précieusement pour eux. Et d'ailleurs, c'était que le chaman qui consommait la médecine quand il devait faire des guérisons, aider des personnes à se guérir. Ensuite, ils ont ouvert ça aux autres membres de leur peuple. Et maintenant, ils l'ont amené jusqu'à chez nous. Alors, ils sont très en connexion, ces peuples-là, avec l'esprit de la terre. La terre-mère, que l'on peut appeler Pachamama, qui aujourd'hui, évidemment, est en souffrance à cause de nos actions. Et l'idée est que ces peuples d'Amazonie peuvent aider les peuples occidentaux à reconnecter avec la nature, à retrouver le respect, à retrouver la santé psychologique aussi, à se reconnecter à leur cœur. Et donc que c'est pour le bien commun, c'est vraiment pour le bien de la planète entière qu'ils nous font ce cadeau de nous partager leur médecine.
Ok. Et pour en revenir à cette médecine, donc voilà, quand on va faire une cérémonie d'ayahuasca, est-ce que c'est quelque chose qu'on a besoin de répéter pour pouvoir accéder à ces niveaux de conscience subtils, différents ou supérieurs? Ou est-ce qu'une prise suffit et après on peut très bien, de manière organique, arriver à obtenir les mêmes connexions, la même réalité modifiée?
Il y a certaines maladies psychiques qui peuvent être guéris assez rapidement avec les plantes. Et on le découvre aujourd'hui, par exemple en Suisse, là où j'habite, eh bien, les médecins commencent à se former, certains, à l'utilisation des champignons, à l'utilisation de certaines plantes pour aider leurs patients à sortir de la dépression, par exemple. Mais pour les Puyanawa, la prise de médecine, elle est régulière parce qu'ils en ont besoin pour se connecter à leurs ancêtres et pour continuer leurs apprentissages, parce qu'ils savent que la connaissance, elle n'a pas de fin. Il y a tellement à découvrir, tellement à comprendre dans la nature que ça fait partie de leur vie.
C'est une culture orale alors, il n'y a pas forcément d'écrit laissé par les anciens?
La langue Puyanawa effectivement n'était pas écrite quand elle a été malheureusement détruite par les colons. Mais aujourd'hui, elle est écrite. Donc, ils se servent de l'alphabet latin pour écrire leur langue. Et ils ont une forte envie, maintenant, d'archiver leurs connaissances, d'écrire des livres et ainsi de ne plus avoir ce risque de perdre leur culture à l'avenir.
Bye. Et un matin, peut-être pour terminer, si tu devais transmettre un des messages qui te paraît pour toi important, un des Puyanawa à l'Occident, ce serait quoi?
Alors bon, je ne suis pas leur porte-parole, mais ce que j'ai pu comprendre de leur message, c'est vraiment que nous avons besoin de la forêt. Sans la forêt, eux, ils ne peuvent pas vivre. Mais ils nous expliquent que sans la forêt, nous ne pouvons pas survivre non plus. Donc l'important, c'est la préservation et c'est de planter des arbres. Un de leurs messages, c'est où que vous soyez sur Terre, vous pouvez planter un arbre. Et donc, eux, ils ont beaucoup de plaisir à planter un arbre parce qu'ils le voient croître, ils vont l'arroser, ils vont s'en occuper. Ce sont souvent des arbres fruitiers, ils vont pouvoir en manger le fruit. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire aussi chez nous. On peut planter un arbre, fruitier ou pas, et le voir grandir et il nous accompagne et nous l'accompagnons aussi. Donc eux, ils nous disent, aidez-nous à planter des arbres chez nous, dans les zones qui ont déjà été déboisées, et aussi chez vous, prenez le plaisir et retrouvez cette joie qu'il y a à planter un arbre pour l'avenir.
Une sorte de retour à l'essentiel. Merci, merci à toi Matei.
Merci, merci à toi pour cette interview. Comme ils disent en Puyenawa, Iskawa, ça veut dire merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.